c'est Radio Potin.
Radio Potin avec Alexis, un des piliers du doc. Enfin, c'est celui que je connais le plus au doc.
Ouais, ben écoute Pat, je suis content que tu sois là, c'est bien, ça fait quand même maintenant quelques années qu'on se connaît et ça sera donc la deuxième fois qu'on fait ce genre d'exercice ensemble.
Voilà.
Et puis ben, c'est toujours un plaisir en fait.
Exactement. Et ça, c'est il y a combien de temps? Je pense que c'était il y a 3 ans ou 4 ans.
Il y a 3 ans, à peu près. Il y a à peu près 3 ans, on a conversé ensemble sur des tas de sujets. Et voilà.
Est-ce que tu dirais qu'à ce moment-là, le doc était dans son enfance?
Bonne question. Disons que c'est pas vraiment l'enfance, c'était les prémices, c'est-à-dire que c'était le tout démarrage de donc en fait, je pense qu'à l'époque on a dû évoquer les fonctions, les espoirs, tout ça. Et 3 ans, c'est quand même une longue période. Et du coup, je pense que aujourd'hui, on peut peut-être évoquer les avancées, tout ce qu'on a capitalisé en 3 ans, tout ce qui a changé aussi dans la destination première du projet et des espoirs qu'on avait placés dedans. Le coût, parce qu'il faut quand même se dire que tout ça a eu un coût, que ce soit humain, financier, enfin voilà quoi. Et que c'est peut-être aussi important de l'évoquer pour que les gens comprennent que c'est pas une aventure qui est juste une grande rigolade et une grande fête permanente, mais que c'est bien un investissement de tous les jours en fait pour tout le monde.
Je me rappelle à cette époque-là, par exemple, le théâtre était un peu pas encore fait vraiment. C'était un peu encore, il y avait du morceau de bois partout, et on va faire ceci, on va faire cela, et c'était un peu l'image de un peu partout. Alors que maintenant, je pense que beaucoup de choses sont consolidées. Je pense que le théâtre, il est comme il est maintenant, il est fonctionnel, tout marche, il y a des lumières, il y a un sono, enfin je suppose.
Bon, mais il y a eu énormément de choses qui ont été faites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une régie, il y a tout un système de lumière qui est effectivement fonctionnel, il y a du son qui est propre, il y a de la projection vidéo puisqu'il sert aussi à accueillir le ciné-club tous les dimanches. Et toutes les projections annexes comme Food and Film, comme le FLIM, qui est le festival qu'on porte, le festival de moyens métrages. Dans l'ensemble, en fait, tout ce qui avait été imaginé, c'est bon an, mal an, relativement bien développé en fait. Pas forcément à la vitesse qu'on aurait souhaité, mais au moins ça existe, c'est là, c'est présent. Alors effectivement, l'atelier métal, bon, tu le sais, c'est moi qui suis responsable de cet atelier, qui donc est un atelier collectif, qui n'est pas mon atelier, qui est un endroit dont je suis. Que je gère, mais qui est ouvert à l'extérieur, aux gens du doc, qui est ouvert, y compris aux voisins, qui peuvent venir y faire des choses quand ils ont envie. Au départ, j'ai commencé avec 3 babioles, c'était le strict nécessaire pour pouvoir fabriquer des choses. Et puis, bah, au fur et à mesure, j'ai augmenté l'outillage, j'ai augmenté la surface, j'ai augmenté... Enfin voilà, mais ça s'est fabriqué en 3 ans. Après, moi j'en suis très fier de cet atelier, parce qu'il a... Il permet à des tas de gens de faire des tas de choses. Donc ça, c'est déjà une très belle réussite. Toujours en liaison avec le Palais de Tokyo, l'atelier métal a servi de modèle structurels, de modèles d'outillage, etc., pour la rénovation de l'atelier métal du palais.
Il y a d'autres comme atelier de...
Alors, il y a la menuiserie.
Oui.
Voilà.
La photo, non ?
Alors, il y a un laboratoire de photographie qui est collectif aussi. Il y a la post-production qui permet aux gens de finir tout le travail autour de la vidéo et du son. Il y a l'atelier couture, donc dans le même esprit. Et puis voilà, en fait. Et si, grande innovation de l'année, je ne sais même pas pourquoi j'oublie, la céramique, qui est un très très gros investissement, qui, grâce à la bénéfice qui a été faite l'année dernière, donc dans la bénéfice, en fait, on a proposé aux gens de participer à une tombola. Et cette tombola, les prix de cette tombola étaient des œuvres d'artistes du doc et de l'extérieur. Et avec les sous de ce qu'on a réussi à récupérer de la bénéfice, on a acheté un four qui est le cœur de l'atelier de céramique, qui lui-même a été complètement refait, qui est dirigé par Raphaël et David, qui sont des gens vraiment géniaux qui connaissent leur métier, qui sont eux-mêmes artistes, enfin il y a tout un truc autour. Et donc on a acquis un très gros serradel qui permet de faire des pièces assez grandes, voilà. Et puis toute l'infrastructure autour, en fait, pour pouvoir faire fabriquer des émaux, les passer, stocker de la terre, stocker des pièces pour les séchages, etc. Le projet a 2 ans. C'est-à-dire qu'il a fallu 2 ans pour monter cet atelier, à force de discussions, tout cet espace. Et les premières cuissons. Et c'était super émouvant parce que les premières cuissons, quand elles sont sorties, je pense qu'il y a plein de gens qui croyaient pas. C'était tellement long. Mais. Voilà, et aujourd'hui, y a un jeune homme qui vient faire des pièces pour la prochaine exposition au Palais de Tokyo sur la scène française. Cet atelier va permettre de faire des pièces qui vont être vues en septembre par, j'espère, des milliers de visiteurs dans une exposition qui est plutôt une belle exposition. Voilà. Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Every day. Et vous avez aussi un atelier de sérigraphie, non? Un bel atelier de sérigraphie, un peu petit. Pour le boulot qu'il y a à faire.
C'est toujours trop petit,
c'est toujours trop petit. Mais écoute, ça fabrique des belles pièces, des très belles pièces. Je vais t'en montrer une, tiens, tu vas me donner ton avis. C'est une pièce donc, que Jérôme Valton a fabriquée, qui moi j'adore et qui m'a offert. C'est un papier gris.
Alors donc c'est un papier gris, un peu forme, je sais pas, d'adzibao, assez rectangulaire. Assez rectangulaire. Oh, il y a de la finesse. C'est 3 couleurs, non?
Oui. Alors que te dit ton œil de professionnel?
Oh, c'est très bien. Jolie trame. Impeccable, rien à dire.
Bah écoute, tu m'en vois ravi.
C'est joli. C'est où? C'est une fantaisie.
C'est une fantaisie qui est un mélange entre un paysage d'arbres, donc qui a été en 2 couleurs, un noir et un or. Et devant ça, on a une reproduction archéologique, d'architecture archéologique du palais de Persépolis et un fond de nuages très contemporain. Donc il y a vraiment trois époques qui se chevauchent, oui. Trois dialogues. C'est une image assez classique, mais en même temps, elle a...
C'est post-moderne.
Voilà. Et donc, simplement pour te dire que tu vois, les ateliers avancent, fabriquent des choses, et bien évidemment, les gens gagnent en expertise, en compétences, en savoir-faire, et ça, c'est génial, parce que c'était vraiment le projet du départ.
Ouais.
C'était vraiment le projet du départ, et ça reste un laboratoire.
Est-ce qu'il y a un équilibre financier aussi, ça?
C'est-à-dire qu'en fait, l'équilibre... Enfin, comme on fait très attention que tout est discuté mensuellement et que finalement, c'est peut-être là la force de l'autogestion, oui, on est toujours dans les clous. Après, on est pauvre, ça c'est une certitude. Mm. Mais cette pauvreté n'est jamais à aucun moment un handicap.
Oui.
C'est-à-dire que si on s'arrêtait seulement à ça, en fait on ne ferait rien. Donc on essaye toujours de se débrouiller pour aller au-delà de cette problématique, au-delà de en trouvant des solutions, quoi. Et je pense que c'est pour ça moi je défends l'idée qu'on est laboratoire, c'est-à-dire que on est là, on a des choses à réaliser, pas toujours les moyens de le faire, enfin de le faire traditionnellement, et puis du coup on trouve des solutions pour le faire autrement. Et l'avantage aussi qu'il y a, c'est que comme tout est interconnecté, en fait, on se rend mutuellement en permanence des services.
Oui.
Je peux, avec l'atelier métal, fabriquer quelque chose qui va rendre service à un tel, qui lui va pouvoir fabriquer quelque chose pour un tel. Et du coup... ça crée une espèce de richesse économique qui est beaucoup plus dense que dans un circuit qui sera éclaté. Dans un circuit où il faudra aller voir tel prestataire pour lui demander ça. Voilà. Mutualise, c'est-à-dire qu'en gros, chacun des gens qui participent à cette aventure accepte une cotisation, voilà, parce que c'est une association, donc accepte de payer une cotisation, ou moi, et puis voilà, c'est tout bête, donc du coup, ça nous fait un petit peu de sous tous les mois qui rentrent. Donc moi, j'occupe un espace,
ouais.
Voilà, j'occupe un espace qui est...
Et comme tu es responsable de l'atelier métallurgie,
voilà.
Tu payes plus ou pas ?
Bah, en fait, il y a plusieurs j'ai plusieurs cotisations.
Ou d'autres gens te payent, justement, ou je sais pas.
Non, j'ai plusieurs cotisations, c'est-à-dire que...
Mais en tout cas, c'est un truc qui marche, c'est un peu byzantine, mais ça fonctionne.
Là, par exemple, on a un énorme chantier qui est en cours, qui est un chantier de rénovation d'électricité. Donc, je pense que la plupart des gens vont cotiser pour ça, parce que c'est un impératif. C'est pas une obligation, c'est un impératif. Il faut le faire. Il faut y aller. Ça fait 6 mois qu'on en discute. Ça a été validé. Ça a été préparé en amont, etc. Et donc, du coup, il faut y aller. Et déjà, il y a déjà des gens qui ont accepté, qui ont, qui qui ont accepté cette cotisation. Et puis bah voilà. Mais non, mais c'est...
mais grosso modo, ça fonctionne.
Oui, voilà. C'est très très raisonnable. Tout est très raisonnable.
Oui.
Et ça, c'est important parce que il faut quand même considérer que la plupart aujourd'hui des plasticiens, des gens qui font les mêmes, enfin, qui sont dans ces mêmes sphères de métier, tous les métiers de création, sont des gens qui, d'une certaine manière, vivent quand même une certaine forme de précarité.
Mmh.
Et que ça, c'est pris en compte, forcément. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de poursuivre un objectif de gentrification, enfin, surtout pas.
Non, mais d'en faire un business, tout simplement. Pas forcément une gentrification, mais il pourrait avoir les gens qui en profitent d'une telle surface.
Non, mais ça n'a jamais été le propos.
Non, ça serait mal vu, je suppose.
Ça n'a jamais été le propos, et ça ne le sera jamais. Où l'idée, c'est de faire... l'idée, c'était d'avoir une plateforme, et c'est toujours cette idée, c'est d'avoir une plateforme qui permet de produire de la richesse.
Hmm.
Voilà. Pas dans un système économique purement capitaliste, en investissement de l'argent, que cet argent rapporte de l'argent. Enfin, je suis assez simpliste, mais bon. Mais bien en mutualisant les outils de production de façon à permettre des projets, voilà, et de permettre l'émergence de projets. La rue Potin, au départ, s'appelait la cité Lemière, que c'était une cité ouvrière qui avait deux grilles à chaque extrémité de la rue, donc celle qui donne sur la rue de Belleville et celle qui donne sur la rue des Bois, que le soir, les deux grilles se fermaient, que le côté impair de la rue, c'était des bâtiments de vie, etc., et que le côté pair de la rue, sur une profondeur assez grande, parce qu'il n'y avait pas, la rue qui est juste derrière, etc., étaient des immenses ateliers de fabrication d'usines, etc. Ces hangars sont en fait des chais, c'est-à-dire que ce sont, selon le modèle industriel anglais, des toits en pente tournés vers le nord-ouest pour avoir le plus de lumière possible, qui abritaient un atelier qui faisait partie de tout un ensemble d'ateliers qui fabriquaient à l'époque des klaxons pour les voitures.
Mm.
Et c'était une entreprise assez florissante quand même à l'époque, donc on est en 1926.
Mm-hmm.
Alors c'est assez beau parce que le bâtiment, il a déjà une valeur historique en lui-même si on le prend dans le cadre du patrimoine industriel de la ville de Paris, il ne reste pas grand-chose. Le 19e était couvert d'usines, et pas des petites usines, des très très grosses manufactures.
Mm-hmm.
Le quartier Amérique et les quartiers autour étaient des quartiers de fabrication, c'est-à-dire qu'on y travaillait, c'était laborieux, on fabriquait des choses, etc. Et puis, la structure en elle-même, elle est relativement intéressante parce que c'est vraiment une survivante, en fait, de cette époque. On s'est posé des tas de questions, et donc ma compagne Marie-Lys, Paul Schlepek, qui elle-même travaille dans le circuit des arts de la rue, du cirque, etc., à un moment, a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut montrait pas un dossier ou quelque chose ou des partenariats avec des structures déjà existantes qui connaissent les problématiques des développements et de la création pour les arts de la rue et du cirque, et encore plus à Paris où il n'y a pas d'espace ou très peu, ou des espaces ridiculement petits, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un ensemble qui permettrait en fait aux compagnies de créer, de monter des créations, aux diffuseurs et aux producteurs de travailler dans des espaces de coworking qui leur permettraient en fait de mutualiser leur carnet d'adresses, de mutualiser leurs énergies, etc., etc. Et puis un système en fait qui permettrait des facilités administratives, etc., etc. Donc elle a proposé ça à l'association, enfin à l'association du DOC, et ça a été plutôt bien accueilli, même très bien accueilli, parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas, déjà, pour commencer. C'est-à-dire que ce volet-là, on ne l'a pas. On fait du cinéma, on fait de l'art, on fait du son, on fait de l'image, enfin, on fabrique tout ça. On fait aussi, on accueille des résidences de théâtre, donc on fait déjà de l'art vivant, ça, il n'y a pas de souci, de la musique, enfin bref. Tout ça, il n'y a pas de souci. Mais ce bloc-là, particulier, en fait, on ne l'accueille pas. Et ce bloc-là, il est très intéressant parce que, en fait, d'abord, il a une forte dynamique, donc ça, c'est quand même plutôt bien. Et puis, nous, on a, du coup, énormément de potentiel à proposer. C'est-à-dire que là, y a un vrai sens collaboratif. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la mutualisation des efforts. Parce que il faut imaginer, par exemple, les ateliers, les plasticiens, etc.
Oui, on peut tout, aussi, voilà. Les scènes, ça peut.
Voilà. Et puis aussi parce que c'est une façon, ça serait une façon aussi d'intégrer une nouvelle culture. Il ne faut pas être trop endogame sur sa culture, parce que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on tourne sur soi-même, et puis on oublie le reste du monde. Or, les gens qui travaillent aujourd'hui les arts de la rue et les circassiens ont une culture très particulière, que nous, on n'a pas. Ça, c'est clair. On en a une autre, mais celle-là, on la possède pas. Apporter à l'intérieur du DOC une nouvelle culture, c'est au bout de 4 ans, c'est aussi une façon d'ouvrir le projet et pas de le transformer, parce que ça ne le transformera pas vraiment, mais de l'enrichir. Et ça, pour nous, c'est super important. Et je pense que c'est une des raisons aussi pour laquelle les gens ont trouvé que, enfin, les gens qui ont participé aux différentes AG où ça a été présenté, ont trouvé que ce projet était assez pertinent. On a fait aussi la démarche à l'inverse, c'est-à-dire qu'on a été voir, Marie a été voir les gens du monde des arts de la rue et du cirque pour les interroger, savoir si notre pertinence était aussi leur pertinence. Et puis ça colle plutôt pas mal, c'est-à-dire que tout le monde trouve le projet plutôt pétillant, plutôt intéressant, avec des développements potentiels. Alors après, il faut discuter, c'est toujours pareil, il faut négocier. Mais dans l'absolu, l'idée même du projet plaît à plein de gens. Et ça, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Après, il va falloir, en l'occurrence, il va falloir peut-être trouver d'autres soutiens, peut-être travailler avec des institutions déjà très ancrées, peut-être. On va voir comment c'est faisable. Mais on va continuer à le défendre l'année prochaine, ça c'est sûr. On a déjà commencé à solliciter les pouvoirs publics autour de cette idée. Là, on a des petits brins de réponse comme ça qui sont plutôt encourageants. Ha ha ha.
Alors le doc, combien d'années encore avant que vous...
J'en sais rien.
Personne ne sait.
Personne ne sait, c'est le grand mystère.
Et est-ce que vous avez toujours, il y avait un moment où vous craignez, je ne sais pas quelle institution, c'était...
Non, mais on craint toujours tout le monde.
Département ou la région, je ne sais pas qui, ou c'est toujours...
Non, c'était...
Vous avez toujours le loup à votre...
Si on en avait qu'un, ça tellement... On les a tous, l'ours, le loup, le coyote, ils sont tous là, Mais c'est pas grave, parce que en même temps, je le dis à titre très personnel, je sais pas si c'est partagé avec mes camarades, mais enfin, moi je le dis à titre très 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 personnel, je suis excessivement fier de ce qu'on a fait pendant 3 ans. Parce que, en réalité, ça a fonctionné majoritairement sur un apport bénévole, majoritairement sur des investissements de gens dans leur temps de vie personnel, et Dieu sait aujourd'hui que c'est précieux. On a accueilli un nombre incroyable de choses à l'intérieur du doc. On a fabriqué une masse de biens culturels, de biens artistiques qui est juste impressionnante. Et je pense qu'en fait, on est sur une espèce de formule alchimique absolument insensée. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive presque à fabriquer de l'or avec du plomb. Quand on est dans l'action, on ne voit pas forcément ce qu'on est en train de faire. Et quand on se pose et qu'on fait un bilan, on commence à comprendre la portée des actions. Qui peut, pour des moyens aussi ridicules que ceux qui sont entre nos mains, fabriquer autant de choses? Ben moi, je vois pas. Très sincèrement, le modèle, il est incroyable, en fait. Et pour moi, c'est super important. Encore une fois, c'est très personnel, mais soyons clairs, le doc est un squat. D'accord ? C'est-à-dire qu'il est issu d'une tradition de gens qui prennent des espaces, qui sont souvent des espaces abandonnés, il faut quand même le dire, pour faire quelque chose avec. Pas forcément pour les occuper en tant que tels et tirer un bénéfice immédiat de cette occupation, mais bien pour fabriquer quelque chose. Et là, on a quand même fait un truc incroyable, c'est-à-dire qu'on a fabriqué quelque chose d'incroyable.
Ce sera le mot de la fin.
Ok, super. Bah écoute, merci Patrick.
Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter?
Ouais, tu viens jouer quand?
C'est Radio Potin.